Bonjour Annette. Bonjour Annette. Coucou. Bonjour à toi. Bonjour Laurent. Dieu soit loué. Nous allons attendre quelques instants encore. Hein. Souvent, je n'ai pas été à l'heure. Alors voilà. Je rentre de plusieurs visites en France, en Belgique. Et c'était le moment, après le camp, c'était le moment de refaire des visites. Et il y en a encore beaucoup à faire. N'est-ce pas, Annette? À bientôt. Bonjour Estelle. Alors, bonjour Fatima. Bonjour Valérie. Que la gloire de Dieu soit sur vous, pour vous aider à marcher dans ses pas. Recevez son pardon et sa bénédiction. Allez en paix, dans la joie, dans l'amour. Je vais reprendre un petit peu. Et bonjour Alexandre. Bonjour à ta femme, Jacqueline. Alors, je vais reprendre un peu le thème de la prédication de dimanche, parce qu'avec l'été, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ensuite, c'était la fin du camp. Le camp avait été terminé pour les enfants. Ça s'est très bien passé. De nombreux enfants ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais vraiment sincèrement, très sincèrement, c'est magnifique comment ça s'est passé. Et Dieu a donné à ce camp 35 enfants et les quatre femmes que vous connaissez, c'est nos trois filles, plus Camille, Miranda, qui enseigne à Pontecombo, tout près de Paris, qui est chrétienne, qui a 26 ans. Et puis, il y avait bien sûr des masculins. Alexander Segnonef, tout à fait en forme, 37 ans. Et puis, il y avait Ethan, un jeune homme de 17 ans, de Pontecombo. Il y avait, tout près de Paris, chrétien. Il y avait Malkas, de tout près de Liège. Je pense que son âme, son cœur est chrétien aussi. Et puis ensuite, il y avait comme autre garçon, attendez, c'est un peu fort, c'est l'effet du soleil et puis le fait que j'arrive à la dernière minute. Donc, Ethan, Malkas, Alexander et Pierre William de Pontecombo, Pierre William Leroux. Voilà, ça s'est bien passé et grâce à Dieu, c'est un bel attelage. Ils avaient réunion à 8 h du matin, ils priaient tous, et puis ensuite les responsables, et ensuite ils chantaient, ils faisaient le point lors du jour, et le soir ils faisaient la même chose. Toujours dans la prière, toujours dans l'action de grâce, la reconnaissance, l'intercession pour les jeunes, et dans un programme élaboré avant et remis au point au fur et à mesure, adapté chaque fois selon l'évolution des enfants. Nous aurions pu avoir, si nous l'avions gardé la première semaine du mois d'août, je pense, une dizaine d'enfants en plus, 10-12. Mais on a changé les dates, nos filles, parce que Alexander Segnonev voulait participer comme moniteur, et heureusement qu'il était là d'ailleurs. Pourquoi? Mais parce que dans le groupe des adolescents, des préados, qui entendaient l'évangile, l'enseignant tous les jours auprès de Noémie, il y avait une jeune femme ukrainienne et une jeune fille qui a entendu toutes les traductions au fur et à mesure en russe. Elle parle ukrainien et russe. Et sans aucun doute, vous pouvez vous imaginer, dans le groupe des moyens, il y avait une petite fille portugaise qui habite au Luxembourg et connaît mal le français, un petit peu, et qui avait à côté d'elle, durant les études bibliques, une traductrice, Camille Miranda. Ce qui fait que ces deux filles, avec bien d'autres, ont donné leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus. C'est un grand sujet d'action de grâce, un grand sujet aussi d'intercession, de prière. Beaucoup d'enfants aujourd'hui cherchent Dieu. Vous n'imaginez pas. Quelle chance quand les parents ne se mettent pas en travers, ne trouvent pas des excuses pour écarter leurs enfants de l'évangile, de Jésus, la personne de Jésus. Et puis il y avait les tout-petits avec Véronique, qui était mignon, minouche, et qui aussi avait des enseignements de Jésus, et qui réellement font très très attention. Véronique a un art raffiné pour parler aux petits-enfants. Noémie aux ados, Bénédicte aux moyens. Merci Seigneur. Et donc, l'école va bientôt reprendre. Prions pour que les enfants soient là, qu'il y en ait des nouveaux, et que nos filles soient toujours consacrées au Seigneur. Souvent, il faut prier et jeûner avant de commencer l'année, et durant l'année aussi, quand viennent s'ajouter des enfants que d'autres écoles ne veulent plus, ou que les parents, dont les parents ne trouvent pas de solution pour eux. Il faut en général jeûner et prier 2-3 jours. C'est les vieilles armes de la foi chrétienne. La lecture quotidienne de la parole de Dieu, la jeûne et la prière, l'adoration, l'intercession. Ce sont les vieilles armes qu'il faut reprendre. Il n'y a rien qui se fait sans ces vieilles armes qui ont été éprouvées à travers les persécutions et qui permettent à des millions de chrétiens en pays hostile de garder la foi et de porter des fruits. Alors, de quoi ai-je parlé dimanche ? Eh bien, nous allons prendre la Bible, si vous voulez bien, Ésaïe, chapitre 8, versets 6 à 16. Ésaïe, chapitre 8, versets 6 à 16. Je vous expliquerai après. Parce que l'Éternel me parla encore et me dit, c'est en 780, 760 avant Jésus, 8 siècles avant Jésus, me parla encore et me dit, parce que ce peuple, le peuple d'Israël, a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils Remalia, voici, le Seigneur veut faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie, toute sa gloire. C'est Sennacherib. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera, inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Donc le pays de Dieu et ses habitants sont appelés ô Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et la parole de Dieu ici est claire. Il y a un petit canal qui est creusé dans les collines de Jérusalem, au nord de Jérusalem, et qui traverse toute la ville et qui alimente la piscine de Siloé, la piscine de Bethesda, que vous trouvez dans les récits. Il y a des guérisons à ces deux piscines par Jésus qui existent, hein, les endroits existent toujours. Le canal existe, on le voit, l'eau coule, il est creusé, il ne fait pas plus qu'un mètre 60, 1,50 m de haut, il faut marcher courbé, et il a 80 cm de large, et ça coule bien. Et dedans, il y a une inscription qui est gravée sur la paroi, le canal de l'envoyé. Et la première piscine s'appelle la piscine de Siloé, de l'envoyé. Et donc, les eaux de l'envoyé, les eaux de Jésus, qui coulent doucement vers Jérusalem, par les prophètes, par les prophéties. Le prophète ici prend l'image pour exprimer que Dieu a de l'amour pour ce pays, et lui annonce le Messie. Et les eaux vives du Messie. Ensuite, voilà que le peuple se réjouit au sujet de Retsin, c'est le roi de Syrie, et un bandit. Et Remalia, le fils de Remalia, c'est Pekach, un roi du sud, de Benjamin et de Juda, un véritable bandit aussi. Et les gens préfèrent opter pour ces deux bandits, ces deux criminels. Mais Dieu appelle toujours son peuple quand même au Emmanuel. C'est beau, Dieu avec nous. Alors, je continue à lire. Verset 9, « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. » Donc, ici, le prophète parle contre Pekach et ses hommes de main qui sont véritablement mauvais, qui tuent les vrais croyants, et les hommes de Ninive. Vous êtes des cris, peuple, vous serez brisés, prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés, préparez-vous au combat, vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis, donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alors prenez bien ce texte, à bras le corps, et dites-vous qu'Abraham a eu les mêmes ennemis au 21 siècle avant Jésus. Donc, par rapport à Ésaïe, c'est 13 siècles avant. Et pensez que Ézéchiel 38 va s'accomplir, c'est les mêmes puissances hostiles qui vont envahir Israël. Ézéchiel 38, et qui s'y prépare. L'Alliance du Nord est signée, est concoctée, toute préparée. Le chef de l'Iran, Poutine et les Russes, plus l'Égypte, se sont réunis. Alors, pratiquement, on est dans la même situation. C'est toujours répétitif dans l'histoire. Les mêmes puissances hostiles tournent autour d'Israël pour la détruire. Eh bien, préparez-vous au combat, vous serez brisés, formez des projets, vous serez anéantis, donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Lisez Ézéchiel 38, j'en ai parlé l'autre jour, il est clair que ces armées de Turquie, qui attaquent déjà le nord de la Syrie et de l'Irak, avec l'accord de l'Iran et des Russes, l'appui, et qui vont bientôt attaquer Israël, pourquoi ? Pour faire sauter le bouchon, pour prendre possession militairement, stratégiquement, commercialement de toute l'Afrique. Puisque avant il y avait des voies commerciales, et depuis 1948 l'État d'Israël est là, c'est un bouchon, c'est un obstacle, il faut le faire sauter. C'est une guerre de butin, Ézéchiel 38, c'est pour l'économique. Et la situation de la guerre en Crimée, les problèmes du Covid en Chine, en Russie, et les difficultés d'approvisionnement de la Chine et de la Russie pour le moment, dans certaines choses, la difficulté de vente, ils vendent beaucoup moins aux États-Unis et à l'Europe, sont un manque à gagner énorme, il faut se rattraper. Il y a 15 ans sur un film ici de Arte, à la télévision, à 2h du matin, je voyais des responsables chinois, des intellectuels qui disaient « nous gouvernerons militairement l'Afrique ». Eh bien, c'est comme ça, ça se fera, il y a 10-15 ans. Mais il y a 10-15 ans, quelqu'un du village qui travaille au Chef à Casto nous a dit aussi, il y aura une guerre entre l'OTAN et la Russie en Ukraine. Donc vous voyez, tout cela est concocté, préparé d'avance, les méchants préparent leurs mauvais projets. Mais Dieu est là pour briser les mauvais projets. Et clairement, dans Ézéchiel 38, des grêlons de 27 à 33 kilos tomberont sur ces armées-là avant les briser. Lisez cela, vous n'y croyez pas, mais moi j'y crois. Il y a déjà des grêlons énormes, comme des ballons de football, qui sont tombés dans la vallée tout près de Barcelone, dans les cultures et dans la mer Adriatique. Alors, Dieu est avec nous, donc Dieu va intervenir. Et ici, c'est la même chose à l'époque de Ésaïe. En 780, 735, il y a quelque chose qui se passe, et cette invasion, c'est en 735. Alors, ainsi parle l'Éternel quand sa main me saisit, Ésaïe 8, 11, qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. Donc, rappelez-vous bien, chaque fois que Jérémie ouvrait la bouche, ou certains autres, qui n'étaient pas soumis, on appelait ça des complotistes, conjuration. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. L'Éternel sera un sanctuaire parmi vous, donc il viendra un jour sur terre et vous l'adorerez en face. Ben, lisez Apocalypse chapitre 21 et 22. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Et donc, ce verset-là se retrouve dans la bouche de Jésus. Et on le retrouve dans la plume des apôtres aussi, dans Romains, chapitre 9, verset 33, et à 1 Épître de Pierre, chapitre 2, verset 7. C'est Jésus, le rocher de scandale. C'est lui qui fait tomber. Scandale, scandalous, c'est celui qui fait chuter. Fait chuter les orgueilleux, les mauvais. Plusieurs trébucheront, tomberont, se briseront, seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, seule cette révélation parmi mes disciples. Et il est clair que s'être heurté à Jésus, ne pas avoir accepté, la prédiction de Jésus s'est accomplie, il ne restera pas pierre sur pierre de ce beau temple de Jérusalem. Titus est arrivé en l'an 70, 70, tout était rasé. Alors, face à cette mentalité hostile qui ne veut rien recevoir de Dieu, qui ne fait que congratuler les gens vicieux, les gens de pouvoir et les gens qui aiment l'argent et le sexe, et le mensonge et les idoles païennes, voilà, il y a quelque chose qui est proposé par Dieu de magnifique. J'espère, Ésaïe 8, 17, en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Il cache sa face, pourquoi? Pourquoi Dieu ne montre pas encore son fils Jésus à ce peuple? Pourquoi? C'est pas l'heure d'abord, vous me direz, mais c'est un peu plus vaste que ça. C'est parce que c'est le péché de ce peuple qui cache la face de Dieu. C'est ce péché qui cache la face de Dieu à ce peuple. Si ce peuple renonçait à son péché, il verrait la face de Dieu. Et pour nous aussi. Nous aussi. L'obstacle pour visualiser Dieu et pour l'entendre en direct, c'est notre péché. Alors, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Ésaïe a une épouse et des enfants qui respectent Dieu, qui respectent vraiment la Torah, les 10 commandements, et qui aiment Dieu, qui le craignent. Et ces gens sont un signe visible, concret, cette famille d'Ésaïe, pour les autres. C'est un signe. Est-ce que vous êtes un signe, vous, mes amis, dans votre région? Est-ce que vous êtes un signe pour les autres? Un signe de Dieu. Un signe de la vraie foi, un signe de la présence de Dieu sur terre. Est-ce que vous êtes ce signe? C'est très important, mes amis, que vous rendiez compte de la mission, la responsabilité que nous avons et du privilège que nous avons. Alors, je vais continuer plus loin. Je vais continuer plus loin, bien sûr. Verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, donc de honte et de ruine, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, donc sa région où est né Jésus, la Galilée, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, donc la mer de Galilée, la mer de Tibériade, au-delà du Jourdain, et couvrira le territoire des païens. Donc il y a une promesse ici, un engagement de Dieu. Chapitre 9 d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc c'est comme si c'était un fait acquis. Jésus est déjà là, il est déjà en train de briller dans le peuple d'Israël. C'est une promesse certaine et c'est clairement établi. Dieu ne retirera pas ce signe puissant. C'est pas seulement la famille d'Ésaïe, ça sera le signe. On va le lire après. Le signe suprême, c'est Jésus-Christ. Verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, donc la royauté. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez à l'Empire une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc là, vous avez une description du royaume de Christ sur terre qui sera établi par Jésus-Christ. Et il continue le verset 6. Donnez à l'Empire de l'accroissement, l'Empire de Dieu, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur a du zèle. Il fera, il installera le droit et la justice sur la terre. Vous savez très bien que ça n'existe pas beaucoup. Ou pas du tout dans certaines régions, et je pense que ça vient de pire en pire. Bon, alors, il faut bien vous dire que ce nouveau signe qui est le Christ, Ésaïe a voulu le présenter à ce roi pourri qui n'en a pas voulu. Chapitre 7, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akas, donc le roi, le père de Pekach, et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, sur la terre, soit dans les lieux élevés, au ciel. » Akas répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » En analysant le texte en hébreu, j'ai remarqué ceci, « Je ne veux pas savoir ce que Dieu pense. Je m'y refuse. » Mes amis, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme tous les grands dirigeants du monde, c'est ça. Akas répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, lui répondit, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, de tous ceux qui voudraient le bien sur la terre, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dieu avec nous. Ok ? Donc, je voudrais vous dire ceci, c'est que la lumière est venue. Jésus-Christ est venu. La lumière est divine. La lumière est totale. Le peuple qui marchait, Ésaïe 9:1, dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Jean, chapitre 1, la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu, et la parole était vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière est venue parmi les hommes, et les hommes n'ont pas reçu. Ça revient au même. Mais on a toujours, c'est la même chose dans la prophétie de Zacharie, quand Zacharie dans Luc chapitre 1 verset 78, il dit qu'à cause des entrailles de la miséricorde de Dieu, le soleil levant s'est levé sur la vallée de l'ombre et de la mort. Donc, clairement, la Bible est très réaliste et nous voyons bien que toutes les nouvelles très négatives aujourd'hui de ce monde peuvent bien correspondre à cette vallée de l'ombre et de la mort. Pensez au psaume 23. Dans les psaumes 23 et au psaume 1, l'Éternel conduit auprès des eaux paisibles. Il abreuve ses brebis et il donne de la vie aux justes, aux arbres. Il donne du fruit en toute saison. Clairement, il y a un projet de vie, un beau projet de vie pour ceux qui ont la foi en Dieu. Donc ne doutez pas de l'autorité de Dieu. Ne doutez jamais, les amis. Vous vous tromperiez de route tout de suite. Alors, prenons Ésaïe 60. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. C'est tout le thème de Christ, les amis. Et cette lumière, bien sûr, au chapitre 60, toujours, au verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Ils ne seront pas supprimés, mais enfin, c'est très relatif, parce qu'il y a une autre lumière bien plus importante, la vie divine. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le rejeton, la racine qui pousse dans le sol sec, le rejeton, et ça, c'est en hébreu, ça donne aussi Yeshua, hein, celui qui sauve, celui qui donne la vie, et qui pousse là où il n'y avait rien. Quoi. Alors, chers amis, dans la foulée de ce texte, au chapitre 61, vous avez le texte de Jésus, celui qui l'a lu quand il commence son ministère public dans la synagogue de Nazareth. Chapitre 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, Dieu est très réaliste. Il y a plein de malheureux sur la terre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a plein de gens au cœur brisé sur la terre. Pour proclamer aux captifs la liberté, il y a plein de captifs dans le péché, dans l'oppression, dans l'injustice sur la terre. Et aux prisonniers la délivrance. Il y a énormément de chrétiens et de gens qui cherchent Dieu quand ils remettent leur religion de base, leur religion païenne ou autre, monothéiste même, en question, ils vont en prison, et parfois tués. Alors, pour publier, 61 verset 2, une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Vous rappelez-vous, dans Matthieu, chapitre 5, heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous y voilà, c'est le même thème que Jésus a repris, parce que Jésus est Dieu, et que celui qui a fait parler Esaïe est Dieu. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Térébins de sainteté par rapport à térébins de Astarté, de toutes les déesses venues de Phénicie, venues des Cananéens, car sur les collines, sous les térébins, on buvait, on faisait des orgies sexuelles pour être en communication avec les dieux. Il y en a encore aujourd'hui, vous savez. Quand je lis la vie de Jacques Brel, il disait que connaître Dieu, connaître ce qu'est divin, c'est dans l'orgasme, il n'y a rien d'autre. Et j'ai pratiqué l'orgasme jusqu'à l'essoufflement total. Donc c'est quelqu'un qui prend le sexe pour une œuvre de l'Esprit-Saint. C'est dingue, mais c'était comme ça. Jacques Brel qui a chanté des si beaux chants et qui s'est perdu si loin. Et croyez-vous que c'est... Il n'y a que lui. Dans ma région, dans le village de Pin, derrière l'église catholique, il y a une petite place avec une statue et on voit Apollyon qui étreint sexuellement une sirène. C'est bien sûr un corps de femme avec une tête de poisson. C'est une étreinte sexuelle et ce Dionysos a en même temps un saint. Il a les deux genres, les deux sexes. Et pourquoi là? Pourquoi à Pin? Parce qu'il y a énormément de gens, de francs-maçons dans cette région. Et le dieu de Pergame, qui faisait souffrir, grâce à ses serviteurs, nobles serviteurs endiablés, faisait souffrir l'église de Pergame dans Apocalypse, c'est ce dieu Dionysos. Et lorsque le train qui est sorti des Alpes, après 3-4 km, 5 km de tunnel, un nouveau tunnel ferroviaire sous les Alpes, en Italie, sur le train, il y avait le dieu Dionysos, applaudi par tous les responsables de l'Europe. Et j'ai brûlé au moins 2 m3 de livres de quelqu'un qui était templier et franc-maçon parce qu'il voulait aller à Dieu, au fond de mon pré, et les livres initiatiques de la franc-maçonnerie ont cette scène de Dionysos avec l'étreinte. Et c'est clairement aujourd'hui ce qui veut animer certains pouvoirs, certains ministres, qu'on mette ça dans les écoles pour avilir les enfants. À l'autre extrême, dans notre camp, nous enseignons la pureté, la vérité et la sainteté de Jésus. Et les enfants ont été avec joie vers Jésus-Christ. Et ces enfants, ces grands penseurs de l'Europe, veulent amener les enfants en enfer et servir Satan comme l'Antichrist sera là. Que choisissez-vous pour vos enfants? Que choisissez-vous pour votre jeunesse, mes amis? Nos filles avaient bien compris en enseignant dans les écoles qu'il fallait qu'elles se démarquent et qu'elles fassent un projet d'école. Et ô Dieu, merci, mon Dieu, merci, même beaucoup d'incroyants mettent les enfants près d'elles pour trouver la valeur de l'Évangile et les enfants vont jusqu'à trouver la personne de Jésus-Christ. Les parents se prennent plus de temps parce qu'on raisonne plus puis on a déjà trempé dans tellement de choses que pour s'en débarrasser, le Seigneur a une plus grande lessive à faire. Alors, dans ce chapitre 61, verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Oh, » j'ai vu ça, moi. J'ai vu ça en Palestine, hein, les ouvriers palestiniens qui travaillaient pour les Israéliens, pour les Juifs. Peut-être que ces ouvriers palestiniens avaient eux-mêmes l'identité israélienne. Hein. Au lieu de votre opprobre, donc de votre rejet, de votre honte, de vos souffrances, vous aurez une portion double. Alors, verset 6, on vous appellera prêtre de l'Éternel, sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, j'aime l'Éternel, j'aime la justice. Sédèque, Sadoc, la sainteté. Verset 10 à 11. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Chapitre 62. Pour l'amour de Jérusalem, de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, sa délivrance comme un flambeau qui s'allume dans la nuit. Alors les nations verront ton salut, tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Donc comprenez bien que tout à l'heure, je vous ai lu dans un autre chapitre, au chapitre 8, au verset 8, que la terre est appelée Emmanuel. Il y a réellement un projet sacré sur cette terre d'Israël, sur cette terre où naît Jésus, où sont en parler les prophètes, un projet sacré, et tous les humains qui se tournent vers ce peuple, non seulement parce qu'il y a de l'argent ou des sciences, mais parce qu'il y a eu des prophètes, il y a la Bible, et ni le diable ni personne n'a pu détruire ce peuple, et ne le détruira. Parce que si vous tournez votre regard là, vers le mont des Oliviers où Jésus est parti, vous le verrez revenir, vous verrez ses mains trouées, ses pieds troués. Zacharie l'a prophétisé. Il est donc important pour vous de vous tourner vers Jérusalem et d'attendre le Messie aujourd'hui. De manière active, dans l'adoration et la prière et le jeûne, la consécration. Quittez toutes vos idoles. Il est temps, il est grand temps. Pour ceux qui ne le font pas, lisez Zacharie 14, pas de pluie sur leur pays. Comme à l'époque d'Élie, 3 années sans pluie, 3 ans et demi, et à l'époque d'Élisée, qui est juste après, 10 années sans pluie. Si vous voulez une bénédiction sur votre région, sur votre famille, sur votre pays, il faut vous tourner vers Jérusalem, l'endroit où Jésus a donné sa vie pour vous et où il est d'où il est parti et où il reviendra, régner en gloire. Ésaïe 25, versets 6 à 9. Il y aura un repas où on mangera des mets succulents, des mets gras, des vins vieux, bien clarifiés, et le voile qui est sur les nations sera anéanti, le voile de la mort, du deuil, du chagrin. Et toute cette assemblée sera dans l'allégresse. Alors, je vais vous dire, les choses sont très simples avec Jésus. Quand vous le voyez chez Matthieu Lévi, avant juste que Lévi prenne la décision de le suivre, il y a une grande table. Chaque fois que Jésus va quelque part, à nos canaux, il y a une grande table. Et il dit, il prend souvent l'image que son royaume est une grande table où tout le monde est invité. Mais il faut avoir la tunique blanche. Il faut l'avoir. Donc, il faut être revêtu de Christ. Et il faut être un adorateur sincère et vrai, authentique, dans l'Esprit Saint. Dieu est très simple, plus simple qu'on ne pense. Pensez à l'église de l'Odyssée. Elle a perdu la simplicité de Christ. Et il toque à la porte et il dit, si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je mangerai avec toi et toi avec moi. Jésus est très simple. Pensez à Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. Notre cœur brûlait quand il était avec nous, quand il nous expliquait les Écritures. Il a partagé le pain avec eux. Jésus est très simple. La grandeur de Christ, c'est la simplicité de son amour et l'authenticité de son amour. Et c'est l'amour infini qu'il a pour nous, qui est sans faste. Pour celui qui a la foi dans le Seigneur, il ne faut rien craindre. Qu'a-t-il dit à Marie de Magdala et à l'autre Marie, mère de Jacques, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau et qu'elles ont rencontré l'ange? Elles avaient peur. L'ange était rempli de lumière, était puissant, il leur avait roulé la pierre. Ne craignez point, vous qui cherchez Jésus ressuscité. Si vous cherchez de tout votre cœur Jésus ressuscité, ne craignez point. Mais si vous ne cherchez pas le Jésus de Nazareth, mort pour vos péchés et ressuscité, et si vous ne le regardez, vous ne regardez pas en direction du mont des Oliviers, dans l'attente de sa venue, qui pour moi, à mon avis, ne tardera pas, vous ne pouvez qu'être que dans la crainte, parce que vous resterez dans les tribulations avec l'Antichrist et tous ses sbires, ses démons. Il est clair que nous avons un grand choix. Dans Deutéronome chapitre 30, Moïse dit ceci de la part de l'Éternel. Je mets devant vous deux chemins, choisissez. Un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Choisissez. Qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples? Je vous propose un petit chemin étroit avec une petite porte basse, c'est le chemin de la vie, et l'arche est la rue, l'avenue de la perdition, où les hommes se perdent, vont vers la mort. Chers amis, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on se dit chrétien, qu'on est en ordre avec Dieu. Vérifiez votre état, votre situation, vérifiez votre type de relation avec le Seigneur. Vérifiez si vous êtes obéissant au Seigneur. Vérifiez si vous avez réellement de l'amour pour lui. Vous avez abandonné le faux amour pour vous-même. L'amour propre, c'est l'amour mal propre. Le vrai amour pour soi-même, c'est quand on a compris l'amour de Christ et qu'on accepte l'amour de Christ pour soi-même. Là, c'est le vrai amour pour soi-même. Et pour les autres, évidemment. Alors, j'ai pris des textes et je vais continuer. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe 61. Je ne vais plus rester dans Ésaïe. Je vais prendre Michée, chapitre 2, 12. Michée. Si vous voulez en savoir plus sur Ésaïe et sur la fin des temps, vous lisez les 8 derniers chapitres. Alors, si vous ne trouvez pas, vous n'en sortez pas, ben, envoyez-moi un message. Je vous écrirai, je vous expliquerai. Ou je vous enverrai un livre, je vous conseillerai. Michée, chapitre 2, 8e siècle, comme Ésaïe, mais pas au même endroit. Michée, c'est dans les tribus du Nord. Ésaïe, c'était au temple à Jérusalem. Il était prêtre. Michée. Michée, chapitre 2, versets 12 et 13. Je te rassemblerai tout entier au Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une seule foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. C'est l'image de Jean, chapitre 10, le bon berger, qui rentre et qui sort de la bergerie. Ici, je rassemblerai tous les restes d'Israël. Bon, clairement, il y a des tribus qui ne sont pas encore rentrées en Israël actuellement. Quand il y aura le grand carnage avec les grêlons sur les troupes de Russie, de Turquie et d'Iran, et voire de Perse, de Libye et d'Égypte, dans le nord d'Israël, il va y avoir clairement un déclic. Un déclic. Il y a des gens qui, autre part, qui sont d'origine juive, par exemple les sud-yéménites, qui sont chiites, hein, les talibans, les pashtuns, dans le nord de l'Afghanistan, le nord du Pakistan, c'est une tribu d'Israël. Il y a des kazakhs, ils sont musulmans en Russie. Il y en a qui sont chinois. Et les Chinois qui font le rite de Moïse. Je suis tombé sur un livre dont plus personne ne voulait et qui était vraiment précieux pour découvrir ça. Et pratiquement, il y a plein de tribus qui ne sont pas encore rentrées. Quand tout le monde sera rentré, Israël, ça sera un pays où il y aura peut-être 25-30 millions d'habitants. Ce n'est pas le cas maintenant. Tous les Juifs n'ont pas décidé de rentrer encore. Il faudra un sacré pétard, un sacré coup de Dieu pour faire le déclic. Alors, chapitre 4 de Michée. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, au-dessus de toutes les nations, qu'elle s'élèvera par-dessus toutes les collines, au-dessus de toutes les tribus, toutes les ethnies, et que les peuples y afflueront. Ésaïe 25, versets 5 à 9. Hein. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole éternelle. Mais la loi vivante accomplie, le seul qui a pu être la loi vivante incarnée et qui l'a tout accompli, c'est Jésus-Christ. Et la parole éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, de Sion apparaîtra Christ, qui a accompli la loi et qui est la loi vivante, la loi accomplie. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, le Logos, le Dabar, rempli de l'Esprit Saint, comme c'est mis dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1 et suivant. Il sera le juge en grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, l'on n'apprendra plus la guerre. Vous savez, en 1980, il y avait à peu près 240 millions d'exportations d'armement. En 2019, 3 000 milliards. Donc le projet de Dieu, c'est d'arrêter tout ça. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une inflation dans le monde et qu'un jour les banques tombent par terre? On est en train de consacrer tout l'argent à ce qu'il ne faut pas. Et clairement ici, Dieu a condamné déjà ce projet des armes. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyous, des pioches. Donc, adieu tous les moyens super modernes où il y a 1,5% de la population qui produit la nourriture pour 100%. Tout le monde pourra travailler un petit peu la terre et vivre en paix. Et ce n'est pas quelques hommes qui font 20 heures sur des gros tracteurs et qui s'endettent dans les banques qui vont faire le boulot pour nourrir tout le monde. De leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche éternelle des armées a parlé. Personne pour les troubler. Pensez à ce que Jésus dit. Recevez ma paix. N'acceptez pas la paix du monde. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Donc nous y voilà. L'accomplissement est là. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Chers amis, ces paroles de Dieu dans Michée correspondent à d'autres textes, dans Ésaïe, dans Jérémie. C'est formidable, l'unité de la révélation et l'autorité de la révélation. Jérémie 23. Jérémie 23, versets 3 à 8. Jérémie, chapitre 23, versets 3 à 8. Verset 3. « Je rassemblerai le reste de mes brebis. » Qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai encore ton autre brebis, il faut que je les rassemble. Vous vous rappelez de cela? Il l'a dit à ses disciples. Eh bien, voilà. « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. » Donc, il s'agit d'Israël. « Je les ramènerai dans leur pâturage, sur la terre d'Israël, mais en présence de Dieu, cette fois-ci, du bon berger. » Pas avec des multinationales dans les poches. Elles seront fécondes et multiplieront, c'est-à-dire elles vont produire du fruit dans l'Esprit Saint et dans la parole de Dieu. Lisez Apocalypse, chapitre 6, 7, où vous voyez 144 000 qui sont au service de Dieu. Au lieu de 12 apôtres, comme au démarrage de l'Église, 144 000 pour propager l'œuvre de l'Esprit Saint et authentifier Christ à travers le monde auprès de tous. Ensuite, dans le même chapitre, il y a plein de personnes, d'enfants de Dieu, qui se mettent au service de la propagation de la parole et de l'Esprit Saint sur la terre, derrière ces Juifs, comme derrière Pierre, Jacques et Jean et Paul, quand l'Église a démarré. Donc l'Église, avec 12 apôtres, c'était un petit début. C'était un petit peu comme un grain de sel qui est jeté sur la terre. Vous voyez, c'était un petit début. Mais avec un petit début, Dieu a fait déjà beaucoup de choses. Et le petit début a été combattu tout le temps. Et il y a des gens qui ont voulu dénaturer, défigurer ce petit début, cette Église de Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'Église de Jésus? Quand vous lisez Romains 14, 17, il est dit ceci. Ce n'est ni le manger ni le boire. C'est paix, justice, joie et amour selon Saint-Esprit. Nous y voilà. Voilà l'Église. C'est ni cathédrale, ni basilique, ni temple, ni mosquée. Voilà. C'est quand Jésus parle à la Samaritaine et dit « Le temps est venu où Dieu, qui demande de vrais adorateurs, le temps est venu où les hommes adoreront en esprit et en vérité. » L'éternel Dieu. Donc ici, reprenons Jérémie, chapitre 23, verset 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, le gerbe, le rejeton, Yeshua, Jésus, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice dans la sainteté, Tzedek, l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et ça, c'est ce qui est marqué sur le front de grand prêtre quand il était dans le temple pour honorer Dieu, tout près de l'arche de l'Alliance une fois par an. L'Éternel, notre sainteté. Notre justice, c'est Tzedek, sainteté. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On dira tout simplement l'Éternel est vivant. C'est-à-dire qu'il est là en face des personnes. Comprenez bien que le royaume de Dieu, c'est être en présence de Dieu. De Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Et dire qu'il y a énormément de chrétiens qui remettent toutes ces vérités en question, qui ne veulent plus en entendre parler, c'est triste. Prenons maintenant Matthieu 4, verset 12. Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le pays de Zabulon et de Nephtali, la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, Kérutso, c'est proclamer sa mort et sa résurrection, et à dire, repentez-vous, métanoïa, changez de vie, faites demi-tour. Car le royaume des cieux est proche en grec, et venant, participe présent, il est en route. Et rien ne l'arrêtera. Voilà un texte dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17. Maintenant, chers amis, prenons Luc 1, chapitre 1, verset 78, 78 pour les Belges. Luc 1, Oh, je vais commencer au début du cantique de Zacharie. Je l'ai lu pendant 4-5 ans tous les jours au matin, à 5 heures du matin. Parfois, il faut s'adeler à des prières. Il y a des prières dans la Bible, elles sont de grande valeur. Et vous savez qu'à force de les lire attentivement, à tête reposée, par exemple, comme si on récitait le chapelet, hein? Eh bien, voici. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. Luc 1, 67. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Donc les textes que je vous ai lus, il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. L'alliance a été établie entre Moïse et le peuple, au mont Horeb, en 1430. Mais avant cela, avant cette alliance, où Dieu a donné les 10 commandements et il a demandé « Respectez-les, je vous protégerai, je vous bénirai en échange », eh bien, il y a eu, avec Abraham, un serment qui a précédé l'alliance. Verset 73-73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Combien de Français sont dans la crainte et ne parlent jamais de Jésus-Christ, là où ils travaillent, ni à l'école, dans leur fonction. Qu'est-ce que c'est de ça? Impossible, moi je ne supporterai pas ça. Je n'aurais pas peur des hommes comme ça. Mais ils se sont accoutumés à servir, à être muets. Que voulez-vous faire? Et pendant ce temps-là, il y a des millions de gens dans les pays musulmans, dans d'autres pays, en Chine, qui se convertissent et qui osent parler du Seigneur. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé au début de la chrétienté à travers tout le bassin méditerranéen? Ils ont parlé envers et contre tout. Alors, avons-nous peur de perdre nos canapés, notre compte en banque, notre sécurité sociale, parce que nous aimons Jésus? Et alors, Jésus n'est-il pas vivant? N'est-il pas capable de me conduire autre part pour vivre mieux? Oui, peut-être que dans les années qui viennent, les vrais chrétiens devront quitter la France pour vivre mieux autre part. Ils retourneront peut-être après en France, mais en attendant, faut-il servir dans la crainte, c'est-à-dire se taire et aller seulement à l'église? Si l'Église est obligée d'accepter toutes les valeurs que l'État lui impose d'ici peu, combien d'Églises vont rester officiellement reconnues? Les autres ne seront-elles pas fermées? Combien de chrétiens seront dans la confiance, dans la profonde confiance? Combien de chrétiens vont marcher par la foi? Ou combien de chrétiens vont-ils vivre dans la crainte et dans l'incrédulité? Ici, clairement, clairement, Zacharie dit ceci, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dans le royaume de Christ, quand Jésus revient, mais il y en a déjà aujourd'hui des témoins, ils le font. Parce qu'il faut que le sel ne se baptise pas, et quand on sera devant Jésus, Jésus ne rougira pas devant le Père de nous. Il n'aura pas honte de nous si nous avons pris un vrai engagement pour lui dans ce monde, même s'il est hostile. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Donc au verset 76, il s'agit maintenant de Zacharie parle de Jean-Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc le soleil levant, c'est le Christ. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, c'est nous, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, ici dès maintenant. Dans la paix et la force et la joie du Saint-Esprit. Nous allons aller maintenant dans Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, c'est-à-dire de la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et puis, il y a eu une alliance de contractés. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bon. Juste un peu avant, dans le chapitre 3. Verset 14. Malachie, chapitre 3, verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Voilà quelqu'un qui est dans l'amertume, qui est complètement sur les jantes, qui n'a plus de confiance en Dieu et qui est en train de se plaindre d'être devenu chrétien, plaindre d'avoir eu la foi. Regardons bien, verset 15. « Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. » Donc, « nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu, ils échappent. » Donc, il peut arriver que, croyant, on arrive à dire « ceux-là, ils sont heureux, moi, je suis malheureux. » Il peut arriver qu'on dise « ben, j'ai tiré le mauvais lot. » J'aurais mieux fait de ne jamais y croire. J'aurais mieux fait de ne jamais être appelé par Dieu. J'aurais mieux fait de ne jamais dire que j'étais chrétien. Et regardez comment ils sont heureux. Chers amis, faites attention à vous. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé, je pense. Verset 16, Malachie chapitre 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Donc il y a les craignants Dieu, Anawim, c'est ceux qui réellement restent branchés, connectés spirituellement à Dieu. Ils ne se déconnectent pas. Ils sont attachés, soudés au Seigneur. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif à eux. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » De tout ce qu'ils disent, de toutes leurs prières, de toutes leurs conversations entre eux. Dieu voit tout, il sait tout. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et alors voici ce que dit l'Éternel. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes amis, est-ce que vous êtes dans le service de Dieu et dans l'obéissance, ou est-ce que vous êtes dans le vide, dans l'absence d'engagement pour Dieu? Rappelez-vous que Jacques a dit dans son épître, la foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans un engagement réel, est morte. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 7:21. Arrière de moi, vous m'avez dit tous, Seigneur, 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 mais vous avez vécu dans l'iniquité, car vous n'avez pas fait volonté de mon Père. Je ne vous ai pas connu. Donc ici, on voit dans ce texte de Malachie, chapitre 3, versets 14 à 18, que Dieu nous connaît, il nous voit tout, il voit tout, il sait tout. Mes chers amis, le royaume de Dieu vous intéresse-t-il? Quand ce temps de humain, parce que nous allons au grand clash, les humains ne sont pas capables de se maîtriser, ils sont pris dans un tourbillon de recherche de puissance, etc., et même au niveau du peuple. On recherche le plaisir. On ne veut pas prendre ses responsabilités. On a trop peur. Mais Jésus veut que nous lui donnions notre cœur et notre vie. Jésus veut que j'ai un accouchement formel, clair pour lui. Eh bien, que voulons-nous? Le royaume de Dieu ou vivre dans les tribulations pendant 7 ans avec l'Antichrist? Et sous les ordres de Satan, et souffrir. Dans cette période de Satan, de cette année, avec l'Antichrist, les 3/4 de l'humanité vont tellement souffrir et mourir que tout le désespoir va gagner ceux qui survivent. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Comme Dieu a dit, par la bouche de Moïse. Voici, j'ai mis devant toi un chemin, celui de la vie, celui de la mort. Pour ma part, chers amis, je sais bien que la vie chrétienne n'est pas facile. Je ne peux pas, quand je parle ici, avoir un esprit de jugement sur vous. Nullement. Je ne me permettrai pas, ce serait honteux. Une vie sans Jésus-Christ. C'est un moi qui, c'est un moi, M-O-I, qui est au centre de la vie personnelle. Le Christ est en dehors de la vie. Cet homme, cette femme n'a pas confié sa vie à Jésus-Christ. Ses péchés ne sont pas pardonnés. Sa vie est souvent désordre, sans but. Et son moi, M-O-I, limité, son moi restreint, le dirige dans l'angoisse et la peur et l'incertitude. Éphésiens 2, verset 12. Une vie confiée à Jésus-Christ. Le Christ est au centre de ma vie. Moi, M-O-I, se soumet à Jésus-Christ. Cet homme, cette femme a confié sa vie à Jésus-Christ. Ses péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Il expérimente l'amour de Jésus-Christ, de Dieu, dans sa vie, tous les jours. Romains, chapitre 5, verset 1. Et son cœur est porté à aimer Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Qui est au centre de ma vie? Est-ce que je vais me confier ma vie à Jésus-Christ pour avoir une relation personnelle avec lui? Comment le faire? Confier sa vie à Jésus-Christ est un acte de foi, de confiance, qui s'exprime par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Il vous connaît. Ce qui importe pour lui, c'est l'attitude de votre cœur, votre honnêteté. Voici une prière que nous vous suggérons. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, te recevoir dans ma vie. Merci de me pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie d'avoir répondu à ma prière et d'être maintenant dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus, amen. Désirez-vous prier Dieu ainsi en toute sincérité? Si vous priez maintenant et selon sa promesse, Jésus-Christ viendra dans votre vie. Qu'arrivera-t-il lorsque vous confierez votre vie à Jésus-Christ? Jésus-Christ entre par la puissance de l'Esprit-Saint, par la personne de l'Esprit-Saint. Il ne vous quittera jamais. Vos péchés sont totalement pardonnés. Vous êtes désormais enfant de Dieu et vous commencez la vie nouvelle, une vie nouvelle et éternelle pour laquelle Dieu vous a toujours voulu et pour laquelle il vous a créé. Comment pouvez-vous être sûr que Jésus-Christ est dans votre vie? Dieu l'a promis. Apocalypse 3, verset 20. Dieu est digne de confiance. C'est pourquoi vous pouvez être sûr que Jésus-Christ habite en vous si vous lui avez confié votre vie. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pensez souvent à remercier Dieu de ce que Jésus-Christ est dans votre vie et de ce qu'il vous a, ne vous abandonnera jamais. Même si je ne ressens rien émotionnellement, le changement est total devant le tribunal de Christ. Vous êtes pardonné et sauvé. Le changement est total. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le changement est total. Dieu vous accueille lorsqu'il envoie son Fils. Même si vous n'avez pas de grandes émotions, sachez qu'un engagement est pris au sérieux par Dieu. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être heureux. Demain, il se peut que vous soyez triste. Les sentiments varient selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Les sentiments varient selon les besoins que nous avons et les satisfactions que nous en retirons. Ne comptez donc pas toujours sur vos sentiments et vos besoins pour avoir l'assurance que vous appartenez à Jésus-Christ. L'autorité suprême du chrétien, c'est la parole de Dieu, la Bible, et non nos propres sentiments, nos propres besoins, nos propres impressions. Le chrétien vit par la confiance, la foi, et il sait que Dieu est fidèle et que sa parole est divine et est puissante pour nourrir mon âme, son âme. Quels que soient vos sentiments, le Christ est toujours dans votre vie. Il l'a dit, il l'a promis. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Jean chapitre 10, verset 28. La vie devient une croissance continuelle. La petite graine a poussé, le soleil de Dieu, sa parole est venue, le germe a grandi, la plante pousse et une croissance arrive. Si par la foi nous apprenons jour après jour à remettre à Jésus-Christ tous les petits détails de notre vie, à ne plus regarder derrière, dans le passé, ne pas regarder devant pour nous angoisser, mais regarder à Jésus-Christ présent aujourd'hui. Oui, si nous apprenons à tout remettre à Jésus-Christ et à ne pas s'inquiéter de demain ni d'hier, alors oui, notre relation avec Dieu grandira et s'affermira. Apprenons à tout confier en lui. Consacrons chaque jour du temps à la prière et à la lecture de sa parole. Mettons en pratique ce que nous découvrons dans la parole de Jésus. Laissons faire l'Esprit Saint pour diriger notre vie quotidienne, diriger notre journée et notre nuit, pour diriger notre témoignage en face des autres et le rendre puissant. Laissons faire le Saint-Esprit, nous n'aurons pas peur des autorités qui nous obligent à ne rien dire. En comptant sur Dieu pour chaque détail de notre vie, nous grandissons. C'est là que nous voyons que nous nous confions en lui, que nous avons confiance. En témoignant de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles, c'est là que nous voyons. La parole est tout près de ton cœur, et si tu la confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Romains chapitre 10. Il y a une importance extrême à faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, on n'aime plus le mot « église ». C'est dommage, mais c'est comme ça. La communauté, l'assemblée de Jésus-Christ. Dieu ne désire pas que nous vivions notre vie chrétienne en vers solitaire. Jésus-Christ nous appelle à vivre en communion fraternelle avec les autres chrétiens. C'est là que nous apprenons la vie chrétienne. Car Jésus a dit dans Jean 13, versets 33 à 35, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, on vous reconnaîtra à ce signe que vous vous aimez les uns les autres. Donc la vie en communauté, dans l'Esprit Saint, dans la parole, dans la confiance en Jésus, est une école de sainteté. Et c'est un signe pour l'extérieur. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux actions bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encourageons-nous mutuellement à nous retrouver tous ensemble pour adorer notre Seigneur. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. L'ensemble des chrétiens constitue un corps où nous nous édifions les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Si vous ne fréquentez pas une communauté chrétienne dans la parole, dans l'amour, où Jésus-Christ est honoré et où sa parole est sainement enseignée, prenez l'initiative de vous joindre à tous les enfants de Dieu, à tous ceux à qui Jésus a confié la vie divine. Et ne regardez pas aux défauts des chrétiens. Regardez à Jésus-Christ, au milieu des chrétiens. Ne regardez pas aux défauts des chrétiens. Regardez à Jésus-Christ et honorez Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut faire partie d'une église. Il faut honorer Jésus-Christ. Qui sont mes frères et mes sœurs? Qui est mon père, ma mère? Ceux qu'il faut inventer de mon père, dit Jésus. Voilà. Malachie 3, verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, des anges. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour venir. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui lui rend service. Dieu soit loué, nous sommes lundi et donc un mercredi 18h. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mon cher JC qui m'écoute, mon cher JC, je ne partirai pas dimanche avant d'avoir fait une réunion avec les frères, si c'est possible. Faire la Sainte Cène et pris des décisions pour la suite des mois qui viennent, faire le bilan du camp. Voilà, mon cher JC. Bonjour à toi, Christiane. Bonjour, Eliane. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous les autres. Que Jésus vous aime, je n'en doute pas. Bonjour, Joël. Et en Pologne, au Pakistan, à bien d'autres places, vous n'imaginez pas. Il y a des frères qui méritent qu'on prie pour eux. Priez beaucoup pour les frères et les sœurs dans le monde. Je vous en prie.